Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui le bonheur, eh bien c'est Beethoven qui nous l'amène. Beethoven grâce au pianiste Jean-Nicolas Diatkine, qui est une sensibilité, d'un raffinement, et qui s'est vraiment rentré dans tout ce combat, cette douleur que vous allez entendre tout au long de ces trois sonates que Jean-Nicolas Diatkine vient d'enregistrer. On l'écoute tout de suite. On l'écoute dans un mouvement particulièrement émouvant. C'est le second mouvement de la septième sonate de l'opus 10 de Beethoven. C'était le second mouvement de la sonate numéro 7, opus 10 de Beethoven, et c'était Jean-Nicolas Diatkine qui en était l'interprète. Jean-Nicolas, de façon générale, Beethoven, c'est votre ami fidèle, votre confident, votre... depuis toujours.
Oui, tout à fait.
Vous voyez comme je vous connais bien.
Oui, mais vous étiez peut-être aussi là, quelque part, pas très loin. En fait, Beethoven était, comme vous dites, mon compagnon de jeu tout petit, et je me suis vraiment construit avec lui. Finalement, il m'a semblé très naturel de le jouer. Au départ, je me suis dit, mais c'est simple, puisque c'est tellement bien construit. Et... j'ai découvert par la suite la grandeur de sa force de composition et de structure.
Alors, Jean-Nicolas, j'ai très bien connu votre père qui était un homme complètement remarquable et très célèbre dans sa profession. C'est un des plus grands psychanalystes du XXe siècle. Et il ne m'a pas soigné, mais j'ai eu l'occasion de le connaître en tant qu'ami. Et c'est un souvenir merveilleux. Et j'ai été très surprise de savoir que son fils était un pianiste. Et puis ce pianiste, je l'ai écouté, un pianiste très sensible, très fin. Et j'ai été particulièrement émue par ce disque que vous avez enregistré, ce disque récent. Comment un père qui est un toubib très très célèbre prend le fait que son fils aime la musique et qu'il a envie de devenir pianiste?
Très bien, il le prend très bien. Après, c'est un monde qu'il connaît pas forcément bien, donc il a aussi envie de protéger contre des erreurs possibles. Donc, il m'a poussé à faire des études scientifiques jusqu'au bac, en tout cas. Ce qui a fait que je me suis intéressé à énormément de sujets différents de la musique, ce qui aujourd'hui, dont j'en suis très reconnaissant aujourd'hui. Ensuite, il m'a suivi, il m'a fait confiance, et ça, je suis extrêmement reconnaissant.
Vous avez vraiment, vous êtes consacré complètement à votre musique, à votre piano, à partir après le bac.
Après le bac, voilà. Après le bac, je pensais que c'était le paradis sur terre après les difficultés, et c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est présenté. Donc, en fait, il fallait faire beaucoup d'efforts. C'était une vie très structurée. Il fallait vraiment se donner entièrement, c'est-à-dire consacrer sa vie au sens propre.
Oui, et je trouve ça particulièrement étonnant comme résultat, parce que en général, les pianistes que je reçois, dès 5-6 ans, ils commencent déjà à travailler beaucoup, et puis quand arrive l'âge de l'adolescence, ils se consacrent entièrement à leur instrument, en travaillant de façon forcenée, et il y a peu... très peu de musiciens qui arrivent à faire une carrière en commençant vraiment à la préparer aussi tardivement. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer alors que vous aviez un départ un petit peu en retard par rapport aux autres ?
Alors, difficile de m'imposer à l'extérieur, peut-être pas. C'était surtout difficile d'y croire, parce que tout le monde me disait ça, en disant, vous partez très en retard.
Je ne vous ai pas rencontré à ce moment-là.
Voilà. Mais donc, il fallait lutter plutôt contre une sorte de pression psychologique qui disait que personne ne l'a fait. Et je pensais un peu à Henri le Navigateur, qui a offert une bourse à ses marins pour qu'ils dépassent le Cap Vert. Donc, une fois qu'il y en a un qui l'a fait, tout le monde l'a fait.
Donc, vous avez bouché vos oreilles pour ces mauvaises prédictions et vous vous êtes accroché.
Voilà.
C'est une façon de dire la passion folle que la musique est pour vous.
Tout à fait. D'ailleurs, on m'a demandé qu'est-ce qui m'a fait devenir pianiste. Et en fait, c'était lors d'un concert avec Isaac Stern et j'ai compris que je ne pouvais pas ne pas devenir musicien.
Alors, on va parler de ces sonates que vous avez enregistrées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, on n'en a pas parlé encore. Ces trois sonates, je trouve, qui sont des moments différents de la vie de Beethoven, mais il y a quelque chose en commun, c'est quand même la douleur, l'angoisse, cette espèce de souffrance qu'on retrouve dans les trois. Vous êtes d'accord ?
Alors, pas de la même façon. Il y a quelque chose de beaucoup plus adolescent, peut-être dans la septième.
Attention, c'est le moment où il apprend quand même qu'il est sourd.
Voilà, et qu'il va devenir. Enfin, il commence
et
à voir.
Quand il apprend qu'il va devenir sourd, il a un choc moral épouvantable. Le second mouvement est quand même très très douloureux.
Ah, très douloureux, mais je pense qu'à l'époque, il était encore dans une autoprojection. Il s'identifie au personnage d'Orphée, ce qui est très très visible dans les représentations qu'on fait de lui. Et à mon avis, il a mis sa douleur en scène. Donc on est encore dans quelque chose de très scénique et de très théâtral.
Ce que je propose, c'est qu'on écoute maintenant le premier mouvement de cette sonate numéro 7. Un mot sur ce premier mouvement. Présentez-le nous.
Alors, au départ, il y a une sorte d'homonymie avec le trio des esprits dont on ressent un peu l'annonce. Il y a quelque chose d'un peu comme ça, euphorique. Et il ressemble aussi beaucoup aux opéras de Haydn, avec des scènes qui s'interrompent, des scènes quelquefois comiques, un peu dramatiques. Et on sent vraiment dans ce mouvement toute l'influence que Haydn a eue sur lui.
Je vous propose donc d'écouter maintenant de cette sonate numéro 7, opus 10, numéro 3, le premier mouvement. C'était Beethoven, la sonate numéro 7, et c'est le premier mouvement, presto, que vous avez pu entendre. C'était Jean-Nicolas Diatkine qui en était l'interprète. Jean-Nicolas, vous avez enregistré ce disque avec ces trois sonates dont on va entendre. J'ai choisi un mouvement différent pour chaque sonate pour reconstituer une sonate qui est faite de la septième, qui est faite de la 23e et de la 28e. Un extrait donc de ces trois sonates qui sont enregistrées avec des mouvements différents. Vous les avez enregistrées malgré le Covid ?
Malgré le Covid, en fait, c'était juste la fenêtre de tir possible pour passer la frontière sans trop de problèmes. Et je suis rentré et ensuite tout s'est refermé. Donc c'était une grande chance. Oui.
Ouf. Bon, c'est un disque qu'on peut trouver partout.
Partout.
Voilà. Et est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez eu une adresse mail où on peut aussi l'acheter?
En fait, vous avez les sites internet comme Amazon, la Fnac. Il y a sur le site Solo Musica aussi, on peut l'acheter.
Vous dites trop vite sur Musica. Musica,
Solo Musica.
Solo Musica, c'est l'éditeur.
Voilà.
Solo Musica. Et à part ça, sonate de Beethoven et Jean-Nicolas Diatkine.
Voilà, ici, mais vous tapez ça sur internet, Diatkine, Beethoven, il y avait tous les sites qui le vendent et ils sont très nombreux.
Oui. Alors je devrais savoir, si j'ai su, j'ai oublié, vous avez déjà enregistré des sonates de Beethoven.
Oui, j'ai enregistré la Waldstein avec le Carnaval il y a une dizaine d'années à peu près.
Et comment se passe pour vous? Est-ce que le musicien, l'homme est différent quand il est en public, en récital, de celui qui enregistre? Certains me disent j'aime mieux enregistrer, d'autres me disent je suis pas à l'aise, je suis pas inspiré quand j'enregistre. Quelle est votre attitude?
Alors, ça varie au cours du temps, mais la difficulté, c'est de ne pas tomber dans le narcissisme, puisque la musique, c'est un don aux autres. Et dans l'enregistrement, on se regarde un peu dans la glace en disant « Est-ce que j'étais bien ?» Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber.
Et quand est-ce qu'on tombe? Quand on donne un récital ou quand on enregistre?
Quand on s'écoute soi-même, c'est-à-dire quand on vient jouer quelque chose, ensuite on écoute en disant « Est-ce que c'était bien ?» Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel.
Oui, écoutez, je crois que le narcissisme, vous ne le craignez pas. Ça ne doit pas être simple. Je vous pose peut-être une question indiscrète. Quand on a un père qui a été aussi célèbre, le fait de croire vraiment en soi et de s'affirmer, ça ne doit pas être si simple.
Écoutez, d'abord, je n'ai pas eu l'occasion de comparer avec d'autres pères, parce que j'en ai eu qu'un.
Oui.
Et
non, mais peut-être avec d'autres amis.
Non, je crois que c'est tout le monde est très différent sur ce sujet.
On est bien d'accord, mais avouez quand même que c'est une chose relativement connue. Mmh. Quand on a un père qui est très célèbre, qui a très bien réussi, c'est pas si facile de refaire son chemin après.
Alors, en fait, peut-être la difficulté, c'est de désirer être connu quand vous avez déjà ça à la maison.
Voilà.
Bon, ouais. C'est comme les gens qui sont
exactement,
les gosses de
très
riches.
Bien dit. Voilà. Désirer être connu quand ce quelqu'un étant son père, l'étant complètement.
Voilà. Donc ça, il faut trouver une autre voie, il faut inventer un modèle qui n'existe pas. Et c'est ce que j'essaie de faire.
Oui, avec la musique, c'est évident. Et puis, la musique forme l'être et l'être forme la musique.
Tout à fait. Mais la musique vit en se transmettant, c'est aussi ça qui est très particulier. Donc elle change de forme au moment où on la transmet. Elle n'est pas figée, c'est pas quelque chose qu'on a déjà programmé pour le transmettre. Elle change de
c'est-à-dire qu'elle vous surprend, vous interprète.
Oui.
Elle vous surprend, elle vous révèle. Elle vous surprend, vous interprète. Et elle-même est un peu différente que lorsque vous la lisez sur le papier.
Tout à fait. Et c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs dans un concert de jazz il y a quelques années. J'ai entendu deux jazzmen improviser dans l'instant, malgré les structures du jazz qui sont quand même très rigoureuses. Hein. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à faire ça en classique. Et Beethoven est particulièrement puissant pour le faire, parce que lui-même était un grand improvisateur. Et on sent qu'il a le sens du moment. Donc, retrouver ce moment unique au moment où on enregistre, c'est un challenge, mais je pense que j'y suis pas mal arrivé.
Oui. Vous estimez que vous êtes un grand romantique ou vous êtes aussi bien attiré par la musique du 17e, 18e, 20e, 21e?
Par toutes les musiques Je n'ai pas de siècle particulier. C'est juste l'interférence que ça a avec le moment que je vis.
Alors racontez-nous comment un pianiste comme vous vit le temps de la Covid. Il n'y a pas eu de concert depuis un certain temps.
Oui, j'en ai deux qui ont été reportés, donc j'espère que le suivant sera le bon.
Alors parlons-en, le prochain qui est reporté, c'est quand?
Alors il est le 17 juin.
17 juin,
17 juin 2021, je précise.
2021, donc attention, c'est dans pas si longtemps.
Voilà.
Ah, et c'est indiscret de vous demander ce que vous allez jouer?
Alors je vais jouer les études symphoniques de Schumann, la mort d'Isolde de Wagner Liszt, la deuxième ballade de Liszt et la 28e sonate opus 101 de Beethoven.
Bon, la 28e sonate opus 101, on va entendre un extrait. C'est un beau programme, un lourd programme, mais un beau programme.
Oui, je suis très excité à l'idée de le faire, oui.
Et ça se passe où?
Salle Gaveau.
Salle Gaveau,
à 20h30.
À 20h30. Bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que vous savez pas si la billetterie est déjà ouverte, peut-être pas.
J'espère.
Salle Gaveau, oui, mais ça va être incessant.
Enfin, maintenant ça se passe sur internet, donc on peut commander en tout cas des billets sur le net, oui.
Ah bon, ah oui, c'est très bien. Et 17 juin, ça va être ouvert.
Je croise les doigts.
Mais oui,
pas tous.
Mais oui, ça va être possible. Alors peut-être il faudra vite se précipiter pour pouvoir être là parce qu'il y aura sûrement un siège de libre à gauche et à droite des gens qui sont là. Enfin, s'ils sont pas en famille, voilà. Donc
ça va être la surprise.
Oui, la surprise. Mais comment un musicien comme vous vit un an et demi de suspension?
Alors, mal et bien, mal parce qu'on souffre de ne pas jouer en public, et bien parce que c'est aussi une période très propice pour la réflexion, faire des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire si on avait plein de concerts.
C'est indiscret de vous demander lesquels?
Eh ben, par exemple, j'ai refait un peu ma technique, j'ai essayé de trouver des sons pour les sonates de Mozart, le son de Mozart, que je n'avais pas vraiment trouvé.
Et comment on retrouve le son de Mozart?
Eh bien... Et en le travaillant, c'est-à-dire en imaginant qu'est-ce que Mozart pouvait imaginer en le composant, pour quel instrument. Aujourd'hui, on joue ça avec un Steinway, avec des instruments modernes dont la longueur de son est très grande. Il y a aussi des phrasés qui sont très particuliers. J'en ai beaucoup parlé avec mon maître Narcisse Bonnet, parce que je me suis toujours posé la question de savoir comment les interpréter. J'adore les opéras et je ne me retrouvais pas le Mozart des opéras dans les sonates.
Alors, on va reparler de ce disque qui est le sujet de cette émission, vraiment. Et c'est une des sonates les plus célèbres qui vient maintenant. C'est la sonate numéro 23 plus 57, La Passionata. La Passionata, on peut dire que tous les grands pianistes l'ont joué. Vous êtes d'accord?
Certainement.
À votre avis, pourquoi elle est si célèbre?
Alors, je pense qu'elle est célèbre parce qu'elle met en scène un état émotionnel qui était quand même assez rare à l'époque, de voir un compositeur d'origine classique, on considère Beethoven comme quand même un compositeur classique, non pas romantique, exposer comme ça son état intérieur, je pense que c'était très nouveau. En même temps, il expose des états qui sont extrêmes, puisqu'il passe... c'était aussi des conditions extrêmes où il l'a composé, hein. Mais il passe d'une colère sourde, d'un tourment très grand, avec des thèmes qui rappellent beaucoup la 5e symphonie, hein, puisque vous avez ce triolet.
Ces triolets qui reviennent tout le temps.
Voilà,
qui est c'est obsessionnel.
Voilà, obsessionnel. Et ensuite, vous avez un passage d'une tendresse aussi tout à fait surprenante.
Incroyable, ouais.
Et cette
toute la tendresse du monde,
voilà, et qui devient presque céleste, puisque on sent vraiment qu'il monte dans un autre monde. Il est ça l'inspire, ça le porte. Et au moment où il est presque à l'apogée de ce sentiment d'extase qui est assez rare chez lui, d'un seul coup, ça s'arrête et il se sent trahi. Et le deuxième mouvement s'interrompt brutalement. Et ça, c'est une déflagration tout à fait extraordinaire.
C'est ce second mouvement que je vous propose d'entendre, l'Andante, Grande Moto, donc de la sonate numéro 23, opus 57, c'est Beethoven bien sûr, et également Jean-Nicolas Diatkin qui l'interprète. C'était un extrait de la sonata Passionata de Beethoven, la sonate numéro 23, opus 57. Et vous avez pu entendre l'Andante con moto, interprété par Jean-Nicolas Niatkine. Jean-Nicolas Niatkine, vous avez encore quelques mois avant ce concert où vous nous donnez rendez-vous, salle Gaveau. C'est le 17 juin, concert reporté à cause du Covid, imaginez-vous. Et où on pourra entendre aussi bien les études symphoniques opus 13 de Schumann que la balade de Liszt, la balade numéro 2 de Liszt, des œuvres qu'on n'entend jamais. Wagner de Liszt également et Isolde. Et puis la sonate 28 opus 101 que vous avez enregistré et dont on va entendre un extrait. Super programme. 17 juin. C'est pas Salle Cortot, c'est Salle Gaveau.
Gaveau.
Tout à fait. C'est Gaveau. Non, parce que j'ai cru voir quelque part Cortot et c'est Gaveau. Voilà, Gaveau, c'est beaucoup plus grand. C'est, je trouve, au point de vue acoustique et sa taille, je trouve que c'est un petit miracle cette salle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui,
vous jouez dans des salles différentes.
J'aime beaucoup cette salle et on a un très très bon retour et on a aussi un contact avec le public, ce qui est rare dans une salle de cette taille.
Oui. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout petite. Et ça n'empêche qu'elle est intime.
Voilà.
J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est quand même comme ça.
Mais quand j'ai accompagné Alicia Nafé au Grand Auditorium de Madrid, dans une salle de 3200 places, j'étais étonné de ne voir personne. C'est-à-dire qu'on était au milieu d'un espace gigantesque et on ne voyait pas le public.
Impressionnant.
Ah oui, mais on ne voit pas le public et on l'entend presque de loin.
Et pourquoi?
Bah c'est la taille, c'est gigantesque. Alors, on se croise un peu seul, c'est pas mal aussi, mais c'est très différent.
Alors, racontez-nous, Jean-Nicolas Niatkine, vous faites de la musique de chambre, vous accompagnez les grands chanteurs, vous jouez que, enfin, c'est pas que, vous consacrez à votre vie de pianiste.
Alors je suis ouvert comme un moulin, je suis tout à fait ouvert. Simplement, j'ai eu un trajet comme ça où j'ai vu que Chopin disait à ses élèves d'écouter les chanteurs. Et mon premier professeur m'a dit la même chose. Donc j'ai eu une opportunité de rentrer dans une école privée de chant. Et là, j'ai pu accompagner des chanteurs, des plus débutants aux très grands professionnels, des très grands artistes. Ça m'a donné un entraînement de l'oreille aussi, de musical. Et puis après avoir donné quelques concerts avec ces très grands chanteurs, je me suis dit pourquoi pas moi, tout seul.
Ah oui. Alors. Ah, c'était une marche,
oui,
je puis dire.
C'est ça. Et donc, parce que j'ai vu la relation en étant un peu triangulaire, puisque il y a moi, le chanteur et le public. Ouais. Et j'ai vu ce qui se passait entre le chanteur et le public de très près. Et ça m'a énormément inspiré. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'aimerais bien aller dans cette trace-là.
Le fait d'accompagner les chanteurs, ça suppose quand même une grande humilité, parce que
Svetlana Richter disait que quand on il parlait de Fischer-Dieskau, quand on accompagne les chanteurs, il faut disparaître.
Oui, il disait on devient un pot de fleurs. Moi, j'ai même vu ça. Oui.
Enfin, bon, c'est de la part de Richter, dire qu'il faut disparaître, c'est beaucoup,
oui. Oui, de la part de Richter, oui, c'est différent. Oui. Mais vous êtes, je crois le deviner, un être très généreux, donc
c'est gentil.
Vous n'en avez pas souffert.
Si, bien sûr.
Si.
Bien sûr, parce qu'il y a des moments où on veut s'exprimer, on a envie de dire, comme là où je suis au micro, j'ai envie de dire plein de choses, mais là, il faut vraiment mettre l'autre en valeur. Et on est là pour mettre le chanteur en valeur, et que pour ça.
Jean-Nicolas, est-ce qu'on peut penser que, étant donné, on tire toujours des leçons d'une épreuve, et la Covid est une épreuve, le fait que vous avez du temps pour vous, vous avez médité, que vous aimez beaucoup réfléchir sur la façon dont vous êtes le plus proche du compositeur, est-ce que, quand vous allez être de nouveau propulsé, et ça ne serait tardé, dans la vie, j'allais dire, normale, voilà, est-ce que vous allez modifier votre façon de vivre, ayant eu l'expérience de ce temps de restriction?
Certainement, puisque le rythme ne sera pas le même hein, quand on a une activité sociale très forte. Mais on garde quand même l'idée des choses essentielles, parce que quand même, qui dit pandémie, qui dit risque de mort, et donc ça simplifie les choses aussi. On se dit, voilà, il faut garder l'essentiel, il ne faut pas se perdre.
Dites-moi, quels sont les disques de vous que vous préférez? C'est une façon de parler de vos disques.
Écoutez, c'est le dernier.
Oui, je comprends, parce que, écoutez, je vais vous dire quelque chose, et je ne l'ai pas dit souvent dans ma vie. Par curiosité, j'ai évidemment beaucoup d'interprétations de la Passionnata, et j'ai mis quelques très très grands, genre Brindel et autres, plus proches de nous, Abdelrahman El-Bacha, des gens qui sont quand même connus comme une référence, Kempf aussi, comme une référence de Beethoven, et j'ai trouvé que vous vous situez bien.
Merci.
Est-ce que je peux vous faire un plus grand compliment?
Non, je suis très très flatté.
Non, alors c'est le moment de redire que c'est Musica, avant Musica, il y a
un Solo Musica, oui.
Pardon?
Solo Musica.
Solo Musica.
Voilà. Alors, pour pas, parce que c'est un terme très usité, il y a un tiret entre les deux. Donc,
ah,
solo
un tiret.
Tiret Musica, voilà.
Solo tiret Musica. Ouais, voilà. Voilà, et ça se trouve chez tous les disquaires, la Fnac bien sûr, et puis aussi, si vous voulez, sur Internet, bien entendu, Beethoven, Jean-Nicolas Diatkins, on vous trouve?
Oui, on me trouve.
Bon, vous nous parlez de cette sonate qui va terminer notre émission, la sonate numéro 28, l'opus 101, que vous allez justement jouer. J'ai enchaîné le troisième et quatrième mouvement, parce qu'on ne peut pas tellement les séparer, l'adagio et l'allegro. Alors, parlez-nous un petit peu des conditions de création du Beethoven de ce moment-là.
Écoutez, on sent très bien, je ne vais pas vous faire l'historique, mais ce qu'on sent très bien dans cette sonate, et Wagner l'a noté, c'est qu'il explore quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, mon explication, et puis il y a certainement d'autres facteurs, c'est qu'il a quand même composé énormément de quatuors, et de la même façon que Schubert entendait toujours un lead quelque part, même dans sa musique pour piano, on se rend bien compte qu'à la fin, dans les sonates, Beethoven entend vraiment un espace qui est beaucoup plus grand que le piano. Là, dans le premier mouvement, il s'agit encore de quelque chose de différent qu'on retrouve peut-être dans la Missa Solemnis, dans certains passages, où on dirait qu'il prend plaisir à créer une structure qu'il détruit. C'est-à-dire qu'il va organiser tout un monde, et puis ensuite, il le questionne et il en sort. Et donc, le premier mouvement donne vraiment cette impression de quelque chose qui est possédé par un espace plus grand que lui. Alors, dans le troisième, il se passe la même déflagration que dans la Passionnata, à savoir qu'après un moment d'exaltation, d'un seul coup, on le retrouve tout à fait au fond du trou, proche du désespoir. Bon, on peut comprendre, puisque cette situation personnelle était toujours très compliquée avec sa surdité et ses relations humaines.
Très dure, très inhumaine.
Et donc, il en souffrait, en plus, en étant un compositeur particulièrement génial, et donc en plus décalé de ses contemporains, même de ses proches. Et donc, il y a cet effondrement moral que tout le monde connaît, hein. C'est pas très original, mais il a une façon de l'écrire et de l'inscrire en très peu de notes, puisqu'il y a à peine une page. Hein. Et en une page, il trouve le moyen de rebondir. Et ça aussi, c'est une très grande force chez lui, c'est qu'il touche le fond et il nous encourage en remontant. Et très souvent, il termine ses moments de désespoir, soit par un tri, soit par une sorte d'arabesque, qui va introduire le second mouvement, le quatrième mouvement, pardon. Et là, il fait quelque chose aussi très étonnant. Au lieu de commencer le quatrième mouvement dans la joie et la bonne humeur, il fait une réminiscence du premier. Et là, il est très fort psychologiquement, parce qu'il se dit, mais est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que finalement, je ne vais pas retomber dans l'état initial? Et après avoir passer quelques secondes à se poser cette question. D'un seul coup, il y a ce fameux tri qu'on attendait, qui ne venait pas, et qui débouche sur une sorte d'explosion de joie.
Et triomphe.
Voilà. Et alors là, bon, dans le quatrième mouvement, il y a quelque chose que j'ai... C'est ça, mes interprétations tout à fait personnelles. Je ne prétends pas du tout faire de la spéléologie ou de l'archéologie. Mais je sens vraiment le lecteur de Shakespeare qu'il était.
Thank you.
C'était la sonate numéro 28, opus 101, et vous avez pu entendre le troisième et quatrième mouvement de cette sonate de Beethoven, et c'était Nicolas, Jean-Nicolas Diatkine, qui en était l'interprète. Sur ce disque, vous retrouvez donc la sonate numéro 7, opus 10, la sonate numéro 23, opus 57, la Passionata, et puis la sonate 28, opus 101. Voilà, un très beau disque qui vous apportera encore du bonheur. Voilà, notre émission se termine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec un peu moins de Covid. Au revoir.